Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Pleurnichard, c'est le joli titre du livre de Jean-Claude Grimbert paru en 2010 aux éditions du Seuil, et c'est aussi une sorte de pseudonyme pour dire l'enfant, l'adolescent et le jeune homme qu'il a été. Dans ce livre dont il lira des extraits sur scène, l'auteur devenu homme de théâtre et écrivain regarde avec tendresse et ironie l'orphelin apeuré dont le père est mort en déportation, l'apprenti tailleur inconsolable qui rêve d'une autre vie et l'enfant en colère qui partait en colonie de vacances dans les pays communistes. C'est un livre grinçant, mordant, mais aussi un livre qui fait rire tout haut, ce qui n'est pas si fréquent. Et pourtant, c'est aussi la voix d'un enfant rempli d'un chagrin qui le dépasse et qui ne comprend pas. Et c'est donc à l'occasion des lectures proposées entre le 8 et le 12 mars au Théâtre du Rond-Point que nous recevons Jean-Claude Grimbert aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors en lisant ce livre, je me demandais ce qui vous a amené à vous remettre dans la peau de l'enfant que vous avez été. Et puis bien sûr, comment est venu ce surnom et donc ce titre ?
Le surnom, je pense que je me le suis attribué a posteriori. C'est-à-dire que on m'a traité de pleurnichard, mais entre autres, c'était pas... Donc, qu'est-ce qui m'a poussé ? J'avais écrit un premier livre qui s'appelait « Mon père inventaire », où en fait, c'était plutôt une sorte de bilan de tout ce que je ne savais pas sur ce père que je n'avais pas connu. Et c'est dans ce premier livre que le personnage de Pleurnichard apparaît. Voilà. Et puis beaucoup de gens après m'ont demandé, enfin beaucoup, des gens après m'ont demandé, mais Pleurnichard, et qu'est-ce qui est devenu, et tout ça. Et donc, petit à petit, j'avais le désir de mettre en scène certaines choses, comme par exemple ces voyages dans les pays de l'Est, donc des pays qui ont disparu, même à la fois géographiquement et socialement, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est n'existe plus, la Tchécoslovaquie n'existe plus. Donc ça m'a frappé d'avoir passé en fait des vacances dans des pays éphémères, comme étaient d'ailleurs les pays de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui changeaient de... Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le centre de l'Europe est resté cet endroit où ça bouge, où voilà, la Yougoslavie s'est écartelée en petits morceaux. Et bon, c'est aussi Maurice Hollander qui dirige la bibliothèque du 21e siècle au Seuil. Est très, très attentif à ce que je peux écrire et m'a incité à continuer. Donc, les livres ne se font pas seuls. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une demande. On écrit. Personnellement, j'écris du théâtre tout seul, sans attendre que des gens me sollicitent. Mais pour les livres, je me suis aperçu que je ne me sentais pas réellement un écrivain. Je me voyais pas en train de fabriquer une œuvre. Donc, bah, c'est à la fois l'envie de parler de ces vacances-là, de reparler de ma mère d'une manière différente, c'est-à-dire que dans l'atelier, bien que ce soit le personnage central, c'est un personnage en creux, parce qu'au théâtre, on ne peut pas faire parler ceux qui n'ont pas envie de parler. Et donc là, j'ai eu l'occasion de replacer au centre de certains récits voilà, cette veuve de déportée, comme elle aimait qu'on l'appelle, surtout veuve. Voilà, c'était, et elle a lutté très longtemps pour obtenir ce titre de veuve. Voilà.
Oui, effectivement, votre mère, Jean-Claude Grimbert, est un personnage très important dans ce livre. Vous lui rendez hommage, vous racontez comme elle était à la fois dure et sévère et comme elle ne supportait pas que vous disiez, votre frère ou vous, que vous en aviez marre. C'était,
Oui, c'était le tabou à ne pas... franchir, voilà, en avoir marre, ça lui était réservé. Comme elle ne le disait pas devant nous, elle ne voulait pas que nous lui disions devant elle. Elle n'était ni dure ni sévère, la pauvre, elle était dépassée. Voilà. En fait, les personnages que je traite, soit au théâtre, soit le patron de l'atelier, c'est un personnage dépassé, et par sa fonction, et par sa vie, et par le fait qu'il ait survécu. Voilà. Ma mère était dans une nécessité. C'était des vies très dures, c'est-à-dire que on n'était pas conscient de ça, mon frère et moi. Mon frère peut-être un peu plus que moi, mais c'est une suite d'événements depuis la petite enfance qui font de c'est-à-dire effectivement, elle avait le droit d'en avoir marre, quoi.
Elle.
Voilà, ça a été une vie très dure et avec très peu de satisfaction et de récompense.
Oui, d'ailleurs, vous expliquez bien dans ce livre, et d'ailleurs, vous allez souvent à contre-courant, par exemple, sur cette question perpétuelle des survivants qui ne parlent pas, vous soulignez l'obscénité qu'il y a à vouloir faire parler, justement, quelqu'un qui a survécu et qui est, justement, aux prises avec la nécessité de vivre, de faire avec, et puis, de rester dans la vie. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui rejoint ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que cette femme, votre mère et ces gens, effectivement, étaient face à la vie qu'il fallait reprendre.
Voilà, c'était... Il y a quelque chose qui symbolise très bien ça, c'est quand vous apprenez qu'un wagon est sorti des rails et on finit par dire les équipes psychologiques sont sur place pour aider les gens et tout ça. C'est vrai qu'il n'y avait aucune équipe psychologique pour aider ceux qui revenaient ou ceux qui attendaient et qui voyaient que personne ne revenait. Ils étaient livrés à eux-mêmes et à une forme de déni qui était un déni presque mathématique. Les survivants... alors, il y avait tout un... C'était très compliqué sur les dénominations, puisque les déportés raciaux, qu'on ne voulait pas désigner sous le nom de raciaux, parce que ça faisait allemand, ou sous le nom de juifs, parce que ça leur avait foutu mal. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi les tziganes, qu'il y avait aussi que c'était plus compliqué que ça. Donc on les a qualifiés de déportés politiques. Et les déportés résistants, dans lesquels il y avait aussi un certain nombre de juifs, mais qui n'avaient pas eu forcément le même traitement, les déportés résistants, ce sont ceux qui sont revenus en majorité. Et donc un déporté, c'était forcément un résistant, quelqu'un qui avait lutté. Donc on honorait ceux qui étaient morts les armes à la main ou ceux que... D'où l'importance du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire que parmi les Juifs, on en avait trouvé quelques-uns. Et donc il y avait cette idée qu'ils s'étaient laissés prendre, il y avait comme une sorte de vague honte. Et puis pas de récit. Le récit, c'était les flics, ils ont cassé la porte, en ce qui me concerne, les flics ont cassé la porte, puis ils sont entrés, puis ils ont pris mon père. Voilà. Donc c'était... Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Et en plus, on vivait... dans le pays où la police de ce pays avait arrêté pour ma mère son mari, son beau-père, voilà, qui était aveugle, et pour moi, mon père et mon grand-père, et plus tous les autres, dont en fait je n'arrivais pas à savoir, puisque toutes les tantes avaient les mêmes prénoms. Il y avait soit des prénoms yiddish, les Feige, les Fanny, ou des... toutes s'appelaient Suzanne ou toutes s'appelaient Gisèle. Alors il y avait une Gisèle qui était vivante, puis les Gisèles déportées. Donc on était dans une absence de, à la fois de récit, et puis c'était simplement, on n'avait pas de place. Je me souviens en colonie de vacances, quand on parlait des déportés, même dans des organisations juives, alors... où c'était des communistes, donc ils étaient morts pour les peuples du monde, ou c'était des choses où on honorait les résistants. Voilà. Et nous, on riait. On n'était pas du tout dans ce coup-là. Nous, on avait pris nos pères. Voilà. Alors, en plus, il y avait cette idée. J'ai mis très longtemps avant de trouver la réponse. Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent, qu'ils prennent un revolver et qu'ils tuent les flics devant leurs enfants, ou que les vieux que mon grand-père qui était aveugle se battent Au contraire, ils l'ont porté dans l'escalier parce qu'il n'arrivait pas à descendre assez vite. Donc tout ça, c'est des choses qui mettent des décennies avant de... Un jour, je me suis demandé si mon père et son père, qui se sont trouvés ensemble à Drancy, sont partis ensemble dans les camps. C'est-à-dire que si mon père a dû assister son père aveugle dans le wagon. Et grâce aux ouvrages de Klarsfeld, enfin grâce au Bottin, j'ai vu qu'il n'était pas parti dans le même convoi. Et je dois dire que j'ai été soulagé pour mon père. Et c'est seulement après que j'ai pensé à... D'ailleurs, à un moment où j'étais en train de perdre un œil, où je risquais de perdre l'autre, que la cécité de mon grand-père s'est imposée, c'est-à-dire que ça a mis 50 ans avant de mesurer les choses. Donc, c'est des maturations très longues, et heureusement qu'on n'était pas assailli par toutes ces questions à 9-10 ans, et qu'on ait envie de vivre, voilà, de vivre. Pas d'une manière, pas pour être heureux et tout ça, mais parce qu'on était là, quoi. C'est-à-dire que c'est... Alors après, on trouvait des expédients. Je pense qu'on était plus pessimiste que d'autres, qu'on avait plus de mal à adhérer même même à cet espoir, qu'il soit communiste ou sioniste, ou se sentir appelé par une religion quelconque. En l'occurrence, ça aurait été la religion juive, mais c'était quand même des débuts où le scepticisme était forcément très fort et où on ne cherchait pas... Alors il y avait aussi ceux qui faisaient au contraire, qui voulaient absolument construire un monde ou se réfugier ou, voilà, ou partir, des pionniers, des trucs. Moi, j'étais pas du tout comme ça, quoi. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer le théâtre assez tôt. Et puis, mes rêves, c'était des rêves qui se sont révélés d'ailleurs aussi difficiles à réaliser. C'était de devenir comédien et de il a fallu que j'attende très longtemps, devenir auteur moi-même pour jouer dans une de mes pièces. Donc, un rôle sérieux, quoi. Voilà. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Mais...
Non, mais c'est... ça suit son fil, en tout cas. Oui, mais d'ailleurs, vous dites dans ce texte que vous étiez finalement obligé vous-même d'inventer de quoi être fier de vos parents. Et cette question justement du doute et de la circonspection par rapport aux convictions des autres, vous l'exprimez bien dans vos voyages, justement, dans les voyages qui étaient organisés dans les pays
qui normalement auraient dû me guérir, qui ne m'ont pas guéri sur le coup, parce qu'on avait quand même besoin de rester en rapport avec l'espoir. Et en rapport avec tous les amis qui étaient ou qui faisaient semblant d'être convaincus. Donc c'était effectivement une histoire qui a duré très longtemps, puisque moi, il y avait des copains chez qui je ne pouvais plus aller parce qu'on s'engueulait à chaque fois parce qu'ils étaient restés communistes. Alors donc, c'était... Alors après, petit à petit, je les ai vus devenir d'anciens communistes et pour certains, avoir le même zèle dans les deux positions.
Et d'ailleurs, on sent que vous avez, malgré votre jeune âge, des intuitions. Vous dites à un moment, vous chuchotez à un de vos camarades, mais si en fait, Staline aussi, c'était un salaud.
Oui.
Et là, on sent que...
Je suis assez fier de cette intuition-là, mais ça n'a pas duré longtemps, quand même.
C'était trop tabou, encore.
C'était impossible.
Et justement, si on évoque cette question de comment on fait face à l'existence, et puis de comment est-ce qu'on fait face à l'idéologie, dans votre livre, vous soulevez une autre vaste question, celle de la vengeance, à l'occasion d'une lecture publique, d'une conférence. Vous êtes interpellé par une de vos lectrices qui vous dit « Mais pourquoi vous n'avez jamais cherché à vous venger ?» Et on sent que cette question, vous l'avez traînée longtemps avec vous, finalement, qu'elle vous l'avez rejetée ce jour-là, mais elle est restée comme ça, oui. Malgré tout.
Et qu'en fait, la vengeance, c'était cette perpétuelle colère qui pouvait se retourner contre ma mère, qui pouvait se retourner contre toute forme d'autorité.
D'administration.
Et surtout l'administration, bien sûr, les... Je ne sais pas comment je me suis pas retrouvé roué de coups dans un commissariat de police. J'ai gueulé sur les flics, j'ai gueulé sur tout ce qui portait un uniforme. Heureusement, j'ai été réformé, mais je ne sais pas comment je m'en serais tiré, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'incontrôlable Ouais, il fallait que je m'oppose. C'était pas forcément face au... Ça pouvait être devant un postier, ça pouvait être... Voilà, c'était pas forcément judicieux, cette colère.
Et vous racontez que vous avez eu entre les mains un dossier qui donnait l'identité, les noms, oui, et l'histoire des gens qui ont dénoncé les membres de votre famille. Et vous dites qu'à ce moment-là, voilà, vous avez été...
membre de la famille de mon épouse.
De votre épouse, pardon.
Et je me suis aperçu qu'on ne se vengeait pas. Voilà, qu'on avait le désir de se venger, mais qu'on ne se vengeait pas. Voilà. Alors c'est pour ça que je vois souvent maintenant des films à la télévision ou ailleurs où je vois comment les gens se vengent et tout. Sans doute, mais... c'est difficile de se venger d'une multitude. Voilà. Alors, peut-être, effectivement... Ma mère avait une méthode pour se venger. Il y avait une dame, quand on revenait du marché, on croisait une dame qui lui disait « Bonjour, madame », et qui faisait même un petit geste à mon égard. Et à chaque fois, je disais à ma mère « La dame t'a dit bonjour. »« Ouais, eh ben tant pis. » Voilà, elle avait un accent plutôt comme Arletty. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne dis jamais bonjour ? Ben, elle a dénoncé des juifs pendant la guerre. Voilà, alors donc, la punition, c'était, on ne lui dit pas bonjour, mais ça n'allait pas au-delà. Voilà. Et comment aurait-elle pu aller au-delà ? Voilà. Mais c'est vrai que ce problème de la vengeance... ça m'a permis de comprendre aussi des réactions ou un comportement qui, à bien réfléchir, pouvait paraître irrationnel, quoi.
Et d'ailleurs, en mentionnant justement cette réaction de votre mère, vous-même, vous dites que vous avez été un peu triste au moment de la chute du mur parce que vous étiez content que quand même les Allemands soient face à l'arbitraire, au moins...
Oui, j'avais connu enfant Berlin sans le mur... C'est-à-dire où on passait d'une zone à l'autre et où... Et puis après, j'étais retourné jeune adulte et j'avais vu le mur et les problèmes. J'avais été moi-même bloqué près de 12 heures parce que mon visa n'était pas arrivé et tout. Mais je trouvais ça bien. Voilà. Et donc, j'ai été l'un des rares à regretter la chute du mur.
Et si on continue, d'ailleurs, Jean-Claude Grimbert a mentionné votre rapport à l'Allemagne. Il y a une scène, il y a un moment dans votre livre qui est extrêmement drôle. C'est le moment où vous êtes dans un restaurant en 74 à Berlin-Est et où vous voyez qu'à la carte, on peut commander une carpe à la juive. Et là, vous commandez cette carpe à la juive et s'ensuit une espèce de...
Oui, une émotion.
Une grande émotion.
Pleurnichard revient. Oui. J'étais bouleversé de me retrouver sur l'Alexanderplatz. En train de manger cette carpe à la juive qu'en fait je n'avais jamais mangé sous cette forme. J'avais mangé du gefilte fish, mais là il s'agissait juste d'une tranche de carpe au courbouillon et qui m'avait fait attendre
des heures.
Il ne devait pas en vendre des masses, et c'est vrai que j'avais été bouleversé par je pense qu'il y avait la fadeur à la fois de la carpe et le délice d'avoir ça dans la bouche, dans ce contexte-là.
Oui, ce qui est étonnant aussi, c'est la manière dont à la fois vous succombez à l'émotion, donc vous pleurez pendant que vous mangez, et puis en même temps, vous essayez de tenir cette émotion à distance dans le texte, en tout cas, en étant ironique, en étant grinçant,
C'était quand même... non, mais je pense qu'il y a... Quand on raconte sa vie, Voilà, on n'essaie pas de faire pleurer le lecteur ou l'adversaire. On essaie de l'avoir par le rire aussi. C'est-à-dire ça. Et je ne fais pas d'effort, ça sort comme ça. C'est-à-dire que je serais embarrassé si on me disait il faut écrire quelque chose de vraiment dramatique. Alors c'est d'autant plus dramatique d'ailleurs qu'on peut en rire.
Oui, c'est ça qui finalement est... Et assez dérangeant, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le rire et les larmes en permanence.
On ne vit plus des tragédies, on vit des tragicomédies, c'est-à-dire on est plus du côté du théâtre de l'absurde que du côté de Racine. Donc les tragédies, c'est des malheurs qui arrivent aux rois et aux reines, et puis nous, ce qu'on vit, ça nous arrive à nous. Voilà, donc il peut y avoir de l'exemplarité quand même, mais ce qui nous a sauvés, disons les enfants déportés, c'est qu'un jour on s'est aperçu que c'était arrivé à quand même beaucoup de gens, et qu'on se retrouvait en vacances, qu'on se retrouvait pour certains dans des maisons d'enfants toute l'année, voilà, et qu'on n'avait pas besoin de raconter notre récit, c'est-à-dire que je savais que lui, il avait perdu son père et sa mère, mais je ne lui posais pas de questions, lui, il ne me posait pas de questions sur... Voilà, on était, et c'est le jour où on a compris qu'on avait quelque chose en commun, qu'on avait vécu, ou subi, ou survécu à quelque chose de commun, que les récits ont commencé à prendre forme. Alors, quand on nous dit, mais... pourquoi les autres n'ont jamais parlé, mais c'est leur problème. Nous, on s'est aperçu qu'en fin de compte, pour se redonner une identité, il fallait qu'on se raconte. Et c'est à travers ces récits qu'on a peu à peu pris conscience qu'il y avait une exemplarité dans notre histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y avait de l'exemplarité au départ, c'est nous qui l'avons fabriquée. Ce sont... les gens, alors les historiens, bien sûr, qui ont énormément travaillé, et puis plus modestement et d'une manière forcément plus décalée, voilà ceux qui ont raconté. Alors il y avait aussi le problème, c'est que les adultes, les survivants écrivaient souvent yiddish, n'étaient pas traduits, et donc on avait l'impression que personne ne parlait de rien. Voilà, alors qu'il y avait quand même... quelque chose qui était...
Oui, et d'ailleurs, vous montrez bien aussi, finalement, comment, et vous le dites d'ailleurs, il est impossible d'oublier, d'échapper au devoir de mémoire pour les enfants et les petits-enfants de déportés. Et vous racontez d'ailleurs, c'est peut-être finalement le personnage qui fait... qui dit ce que vous avez peut-être envie de dire dans ce livre. Vous parlez de cette Bella qui était dans l'atelier de votre mère, donc qui croyait à la grande réconciliation, à la fraternité entre les peuples, dont la fille va s'installer en Afrique, qui fonde une famille là-bas, une famille métisse, et dont la petite fille consacrera une thèse autour des questions de la Shoah.
Oui. Je pense que c'est un des points importants du livre et une chose qui m'a fait réfléchir à beaucoup de choses dans ma vie quand j'ai été face à cette jeune femme qui a opté pour... voilà, il y avait différentes histoires face à elle ou derrière elle, et elle est devenue cette petite fille de déportée, et de déportée à la fois juive et communiste. Et cette femme qui s'appelle Bella, qui s'appelait Bella, était une sorte d'image dans cet atelier. Il y avait... une sorte de respect qu'elle imposait, tout en étant au même titre que les autres, en train de coudre, en train de rire, en train de chanter, en train de... Voilà, mais elle avait... c'était une femme d'une qualité, d'une... qui... C'est vrai que c'était, pour moi, c'était un grand personnage, voilà.
Et dont l'histoire, finalement, a bouclé la boucle.
Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Claude Grimbert. On peut donc vous retrouver au Théâtre du Rond-Point où vous donnez donc une lecture de ce texte entre le 8 et le 12 mars. Et donc, c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation. www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission. www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.